Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Cinérama. Nous allons parler des films qui sont sortis le 21 octobre, d'autres qui sont sortis le 28 octobre. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors quel est le sommaire aujourd'hui pour toi Marine ?
Alors moi je vais vous parler du dernier film de Mai Wen, Mon Roi, et puis je vais vous parler de Pan, une adaptation donc de Peter Pan.
Voilà, petite nouveauté, très fraîche. Et puis toi Manu ?
Eh bien je vous parlais d'un film qui est sorti il y a un petit moment déjà, hein, Crimson Peak, le nouveau film de Guillermo del Toro. Et puis dans le cadre des films noirs, dans le cycle de films noirs, je vais parler d'un film qui s'appelle Dementia, qui n'est pas vraiment un film noir en fait, plutôt un film expérimental.
Et puis eh bien, il y aura beaucoup d'extraits de films, notamment sur les chroniques que l'on va faire, avec notamment eh bien, Lolo. Film de Julie Delpy, c'est sa nouvelle comédie qui sort le 28 octobre. Et puis, on aura l'occasion alors d'écouter des acteurs que vous connaissez, comme Tahar Rahim, et puis aussi une réalisatrice que vous connaissez peut-être moins. C'est Arbid, mais j'ai perdu son prénom.
Daniel
Arbid, tout à fait, Daniel. Et on écoutera aussi Gérard Lanvin, et tout ça pour parler en fait du choix des acteurs. Comment on choisit des acteurs voilà, ce sera bien au centre de l'émission de Cinérama qui débute maintenant.
Et maintenant ? Quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Suite à une grave chute de ski, Tony entre dans un centre de rééducation. Face à la psychologue de cet établissement qui lui fait comprendre que les mots du corps sont le reflet de ceux de l'esprit, elle se remémore son histoire d'amour avec Giorgio, une passion destructrice de 12 ans. Avocate trentenaire à la carrière prometteuse, Tony rencontre à Paris cet homme charismatique avec qui elle débute une relation dévorante et déséquilibrée.
T'as été avec elle ?
Non, j'ai pas été, je l'ai rencontrée une fois...
Arrête, Giorgio, tu peux me dire ?
Oui, j'ai couché avec elle, oui
voilà.
J'ai couché avec elle, mais je me rappelle plus comment elle s'appelle, tu vois, donc ça veut dire ce que ça veut dire.
Mais je comprends pas. À part moi, en fait, avant moi. T'as été qu'avec des mannequins ?
Non.
T'as été avec une fille normale, toi ?
Comment c'est normal, là ?
Bah, une fille comme moi, une fille normale.
Parce que toi, tu crois que t'es normal, toi ?
Oui, je suis normal.
Mais t'es pas normal du tout, toi ?
Si, mais tu vois, tu m'as compris.
Écoute, j'étais plus jeune, j'étais un peu con, j'avais envie de me mettre avec des filles belles parce que ça me rassurait, je me disais, voilà, tu vois. Il y en a, c'est les voitures, moi, c'était les jolies nanas, voilà, c'est tout. Bah, tu sais, on fait vite le tour, hein. Regarde. Écoute-moi. Je préfère une comme toi.
Oui, je connais.
Que une samaritaine entière de celle-là.
Ah bon ?
Ouais.
Mon Roi se pose ainsi en véritable autopsie de cette liaison amoureuse. À partir de flashbacks, on reconstitue les prémices d'une relation, ses balbutiements, la passion qui prend forme et les obstacles qui surviennent. La reconstruction physique de la protagoniste est de toute évidence l'allégorie de sa reconstruction personnelle. Et l'on sait de cette histoire d'amour filmée à la manière d'une tragédie intimiste qu'elle est dès le départ vouée à l'échec. Car Giorgio est aussi trouble qu'il est séducteur, il ne tarde pas à révéler son côté manipulateur, voire pervers narcissique, volage, menteur, drogué, aimant s'entourer d'une cour, on comprend d'ailleurs assez vite le sens du titre, hein, mon roi, Giorgio va vite se montrer cruel et insaisissable. La seconde partie du film s'attache alors à l'aide de nombreuses ellipses qui évitent de tomber dans le film de psychanalyse à suivre la déchéance de Tony. Par ailleurs, hein, bien que le prix d'interprétation à Cannes ait été donné à Emmanuelle Berco, absolument parfaite dans ce premier grand rôle, c'est véritablement Vincent Cassel qui livre ici une composition très complexe et fascinante, solaire, trouble, en proie à ses propres démons. C'est réellement lui qui impressionne avec un personnage de bourreau à la fois séduisant et ambigu.
Joseph, je te présente la femme de ma vie.
Bienvenue dans ma modeste officine, mademoiselle.
Aussi loin que porte ton regard, tu peux choisir ce que tu veux. C'est pour toi.
C'est à toi ?
Non, c'est pour toi.
C'est pour moi.
C'est Joseph et moi qui te l'offrons. Vas-y, prends des crèmes, prends des brosses à dents. Prends des pompes à venin.
N'hésitez pas, je mets ça sur sa note, on a l'habitude.
Bah ouais. De l'exo.
Oui, d'accord, très
bien.
De moite, ouais.
Pour toi ? Tu prends ça à toi. Ah,
Pas du tout.
Mais ça pourquoi va. Tu prends hein ça?
Et alors dis-moi un truc. Et le Viagra?
Eh bien, le Viagra. Bah écoute, on en a, évidemment, on en a.
Eh ben, j'aimerais bien en prendre
non,
un petit peu.
De si.
Vous voulez vous amuser avec ça?
C'est pas dangereux dans le cœur?
Non, pas du tout. Non, ça
je ne sais rien. Pour le tout. Foie.
Qu'un souci.
Alors donne-moi une boîte juste.
Mais non, mais on n'a pas besoin de ça.
Ça dure combien de temps?
Ça dure 12 heures, donc.
12 heures?
Oui, mais j'ai envie de prendre ça.
Non, mais j'ai envie d'essayer parce qu'il paraît que c'est vraiment tes.
Ah,
c'est
ça le... marche, c'est.
C'est la fleur au fusil, quoi.
Absolument.
Je te promets dans la rue. Pardon, excusez-moi. Hein? Et tu sais qu'il y en a un nouveau qui est sorti?
Non, quoi, non.
Si, ça s'appelle le Viazac.
Le Viazac?
C'est un mélange de Viagra et de Prozac. Et c'est vrai que tu bandes plus, mais tu t'en fous. Mais pas cette fois-ci, là, je te fais prendre du Viagra. On va essayer.
Le scénario classique, mais très bien écrit, est soutenu ici par de nombreux passages improvisés. Comme souvent chez Maïwenn, tout cela sonne extrêmement juste. Hein, les dialogues, les situations sont parfaitement écrites et incarnées. L'ensemble rendant le film très immersif et donc particulièrement éprouvant pour le spectateur. À tel point que le duo d'acteurs éclipserait presque le reste, à savoir la mise en scène, une mise en scène discrète, mais néanmoins inventive, sans effets visuels spéciaux ni recherche esthétique, Maïwenn rafraîchit des situations qui ont pourtant tout du cliché. Ainsi, le coup de foudre, le mariage, le désir d'enfant, l'infidélité ou la rupture, autant de lieux communs cinématographiques sont ici réinventés. Rien d'inédit, certes, pour ce quatrième film donc, de Maïwenn, mais toujours autant d'intensité et d'énergie, et mention spéciale quand même à Louis Garrel qui parvient à s'imposer face au duo principal, ce qui n'était pas chose facile, et puis qui apporte un peu d'humour dans ce film quand même très dramatique. Donc vraiment, je le conseille, c'est à voir. Un film très intense.
Voir l'aspect comique donc de Louis Garrel.
Oui, en plus, voilà.
Dans un film de Maïwenn. On passe à, franchement, une comédie, hein, celle-ci. C'est celle de Julie Delpy, Lolo.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule.
Cinérama.
Je suis allergique.
Julie Delpy fait partie de ces réalisatrices qui sont plutôt inspirées, enfin disons, qui tournent beaucoup. Quand on sait que certains ont quelques problèmes pour monter leur projet, on a déjà parlé de François Dupeyron ici, hein, dans cette émission, eh bien Delpy, elle, arrive à enchaîner les longs métrages Today's in Paris, La Comtesse, Le Skylab et Today's in New York, il faut dire... Qu'à part un intrus, La Comtesse, hein, qui est un drame et en costume, eh bien tous les autres films sont des comédies. Comédies romantiques pour les deux Today's et comédies familiales pour le Skylab. Des films qui ne doivent pas coûter très cher à réaliser, car ils ne portent que très peu de stars au casting, que les décors sont réduits et que ce sont des films qui ont été modestement suivis en salle de 250 000 entrées à 450 000, ce qui n'est déjà pas si mal. La seule exception, encore une fois, est La Comtesse, le drame, avec 125 000 entrées seulement pour 8 millions de budget. Autant dire que c'était un bide. Mais là, avec Lolo, qui sort le 27 octobre, le 28 précisément, Delpy est bien dans la comédie.
C'est quoi ce bain, là? Ça bouge la graisse tout en raffermissant les chairs, c'est bon pour ce qu'on a.
Bah, on a quoi?
Bah, 45 ans.
Le film commence avec Violette, Julie Delpy elle-même, en thalasso avec sa copine Karine Viard. On vient de les écouter, elles sont à Biarritz. Et ça parle kilo en trop, mec en moins, avec une Karine Viard qui donne un bon conseil à sa meilleure amie, un truc que lui disait sa grand-mère, plus ils sont cons... mieux il baise. À ce jeu-là, elle en voit passer un, et c'est Jean René, interprété par Danny Boone. Et finalement, eh bien, ça prend d'autant qu'il n'est pas si con, il est juste ringard et mal fagoté. Alors face à la parisienne directrice artistique dans la mode, eh bien, ça tranche. Mais cette histoire de jambes en l'air va nous donner un début d'histoire d'amour. À la faveur d'un déménagement prévu d'avance à Paris, eh bien, Jean René et Violette vont pouvoir s'aimer, prendre du bon temps, dépasser les différences. Elle, la parisienne, lui, le provincial, elle, la mode, lui, l'informatique, version finance et pas geek. Et puis, la comédie, eh bien, va être romantique. Mais, car il y a un mais, il y a Lolo, interprété par Vincent Lacoste, le fiston de Violette qui va être dans les parages.
Éloi, mon fils, c'est Lolo.
Jean-René, très content de vous rencontrer.
Jean-René?
Oui.
Alors, comment tu le trouves?
Jean-René?
Quoi, il est plouc?
Mais t'es pas aveugle.
Dans Jean Vieillado qui s'incruste, on avait eu Tanguy hein, de Châtillaise, mais là, notre Lolo, Éloi, donc en fait, a un penchant psychopathe. Il n'aurait jamais vraiment résolu son complexe d'Oedipe et chercherait vraiment à éliminer le rival de sa mamoune, comme il l'appelle. Le pauvre Jean-René ne se doute de rien et sa mère pas plus, évidemment, puisque c'est son Lolo. Un grand garçon qu'elle héberge alors qu'il est en passe de devenir un artiste reconnu. Delpy, en continuelle surchauffe, instable, excessive, hypochondriaque, mais enfin amoureuse, va devoir choisir entre son fils manipulateur et une histoire. Et voilà à quoi se résume donc au premier abord Lolo. Comme toujours chez Delpy, les dialogues sont relevés, parfois crus, quand il est question notamment de sexualité. Hein, Lolo parle le film, et non pas... le fils parle du clitoris, de ses joies surtout. Hein. Dans la première séquence, les deux copines parlent de leur chatte. Et donc là, le ton est donnée. Donc des dialogues aussi souvent bien vus à Jean-René Boone, qui explique qu'il n'a pas eu beaucoup d'histoires, juste des rencontres sans ce petit supplément. Donc entre guillemets, Violette lui répond « on appelait ça l'amour avant ». C'est dire si pour cette femme, c'est un sentiment qu'elle n'a pas perdu de vue. Mais au-delà de la comédie romantique, eh bien Lolo parle des enfants comme de monstres. On peut y voir des enfants rois ou y voir quelque chose de plus étrange encore. Et pour surligner son propos, tandis que le couple regarde un film, eh bien que voit-on sur l'écran ? Les progénitures du village des damnés, leur version 1960, où des enfants à rien au pouvoir étrange prennent possession d'un village. Alors cette comédie, contrairement à Two Days à Paris et à New York, eh bien, est sa plus française, déjà pour son casting où il y a quand même Danny Boone, celui qui a battu eh bien, tous les records en France. Mais en engageant des stars, eh bien, elle perd peut-être en rythme, en finesse aussi peut-être, même si elle se taille un chemin au travers de toutes les comédies françaises calibrées. Voilà, Lolo de Julie Delpy.
J'aimerais tellement que tu rencontres un mec bien, ça changerait ta vie de merde.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
On passe à tout autre chose hein, avec le nouveau film de Guillermo del Toro, Crimson Peak. Alors fin 19e, hein, en pleine période victorienne, Edith Cushing, alors bonjour la référence à l'écrivaine Edith Wharton et aussi Peter Cushing, icône de la Hammer, jeune romancière hantée par les fantômes depuis le décès de sa mère, vit à New York avec son père, un riche industriel. Elle s'éprend du mystérieux et ténébreux Sir Thomas Sharpe, qui arrive d'Angleterre avec sa sœur Lucille. Il est à la recherche de financement pour son invention, une machine sophistiquée qui extrait l'argile du sol. Le père d'Emily, sceptique et surtout inquiet de voir sa fille tomber sous le charme de Sharpe, refuse de l'aider et lui demande même, suite à une révélation, de repartir dans son pays natal. Mais Cushing meurt dans d'étranges circonstances. Emily finit par épouser Sharpe et s'exiler au fin fond de la campagne anglaise, dans un gigantesque manoir gothique aussi accueillant qu'une virée nocturne dans un cimetière transylvanien.
Elle sait qui je suis et elle veut que je parte d'ici.
C'est absurde, ma chère. Vous n'irez nulle part. Vous avez fait un cauchemar. Vous êtes somnambule.
Non ! J'ai peur de devenir folle si je reste.
Ma chérie, vous imaginez des choses. Si nous faisions une sortie demain, au bureau de la poste, je pense que prendre l'air vous fera du bien.
Non. Il faut que je parte. Il faut que je m'en aille d'ici.
Edith, c'est votre maison à présent. Vous n'avez pas d'autre endroit où aller.
Quel plaisir de voir Guillermo del Toro hein, derrière un tel projet après les blockbusters Hellboy 2 et Pacific Rim, ses précédents films qui ne m'avaient pas plus excité que ça. Hein. Le Mexicain revient à ses premiers amours dans une production certes confortable, mais qui retrouve l'esprit vénéneux et enchanteur de L'Échine du Diable et du Labyrinthe de Pan. Alors là, il rend un hommage, un vibrant hommage en fait au cinéma gothique qui hanta nombre de cinéphiles, hein, des classiques américains comme Rebecca d'Hitchcock ou Le Château du Dragon de Mankiewicz, jusqu'aux bis italiens, les films de Mario Bava et Riccardo Freda en tête, en passant par la Hammer. Bref, il convie tout un lourd passé cinéphilique pour conter une histoire classique, méprenante, prévisible pour beaucoup, mais respectueuse de par sa structure de tous les films cités ci-dessus, mêlant adroitement climat fantastique et récit plus trivial autour d'une machination. Alors, Del Toro connaît la musique sur le bout des doigts et ce qui aurait pu se transformer par des mains plus lourdes en une grosse machine indigeste demeure un spectacle quand même éblouissant. Crimson Peak peut susciter une légère déception hein, à la première vision, car il ne s'écarte jamais d'un classicisme majestueux. Alors, assez raccord avec la littérature romantique et gothique de la fin du 19e siècle, et surtout parce qu'il se refuse à tout twist débile ou des retournements de situation. C'est ce qui a pu décevoir, je pense, beaucoup de gens, hein, de ne pas se retrouver face à un film comme les autres, par exemple. Mais esthétiquement, le résultat est somptueux. Hein. Si Del Toro ne révolutionne pas le film de Maison Hantée, il crée une série d'images hypnotiques qui prend forme au centre d'un décor monstre à la beauté foudroyante. La mise en scène est aussi très très élégante, hein. L'enchaînement des plans et la mobilité de la caméra donnent un rythme finalement enlevé à un film qui pourrait se vautrer dans une lenteur apathique. Alors contrairement à ce que j'ai entendu, hein, je trouve que Crimson Peak est très dynamique et le traitement visuel excessif et coloré rappelle beaucoup le travail de Martin Scorsese sur Le Temps de l'innocence, adapté de Edith Wharton justement.
Êtes-vous préoccupée, Edith ? Quelque chose m'a fait sursauter.
Une ombre.
Oh, il faut savoir que cet endroit n'est qu'ombre, craquement et grincement. Calmez votre imagination débordante, cela vaut mieux.
Je désire simplement qu'on me fasse bon accueil. À partir de maintenant, je veux que cet endroit ne respire que l'amitié, l'amour et la chaleur. La chaleur, voilà qui est parfait pour commencer. Thomas, ton épouse est gelée, voyons.
Bien sûr. Pardonnez-moi. Montons et commençons par allumer un feu. Je vais vous faire couler un bain chaud. Au début, l'eau sera rouge à cause de l'argile, mais elle deviendra vite claire.
Oh, Lucille, quand ce sera possible, pourrez-vous me donner un double des clés, s'il vous plaît?
Ce n'est pas utile.
Pardon?
Certaines parties du manoir sont à éviter. Je vous accompagnerai dans les pièces le temps de vous habituer. Si vous jugez qu'il vous faut les clés, j'en ferai faire un double.
À la sobriété glaçante des autres d'Amenia Bar, Del Toro joue la carte de la démesure visuelle en rajoutant dans le déluge de couleurs, alors notamment le rouge de l'argile qui se mêle avec le blanc immaculé de la neige, la folie des décors, la fascination pour les insectes. Le manoir a même des allures, on va dire, de gigantesque parc d'attractions, un peu disneyen, c'est vrai, ce qui peut agacer les puristes, car lorsque Mario Bava surenchissait dans l'artifice, c'était avant tout pour masquer l'absence de moyens. Del Toro n'a pas besoin de ça et son film flirte parfois avec le trop-plein, la boursouflure, mais tant pis. Si Crimson Peak sombre parfois dans un grotesque parfaitement assumé, le résultat est brillant et généreux, à l'image de cette dernière demi-heure qui verse dans un grand guignol sanglant, parfaitement réjouissant et plutôt surprenant pour une production de ce type. Alors vu la perversité de certains thèmes abordés, on aurait aimé, mais là faut pas rêver, qu'il en soit de même au niveau de la sexualité, tant le récit en est potentiellement chargé. Alors, dans un retournement du genre, en fin de compte, plus conventionnel qu'inattendu, les véritables monstres de Crimson Peak ne sont pas les fantômes, mais les vivants, cachant des secrets monstrueux. Les effets spéciaux sont très beaux, les silhouettes rouges et noires des spectres composent de fascinantes images picturales, mais en revanche, ne servent pas à grand-chose. Del Toro aurait pu raconter la même histoire sans fantômes. L'élément purement fantastique paraît presque plaqué sur un script au demeurant bien écrit. L'ambiance surnaturelle et anxiogène du manoir suffisait à nous immerger dans une œuvre passionnante et sincère, dépassant allègrement dans un genre similaire, le Sleepy Hollow de Tim Burton. Le film est beaucoup plus réussi, mais le seul problème, c'est que les fantômes ne servent quasiment à rien, en fait. Ils sont juste là en tant que présence pour prévenir l'héroïne du drame qui va se jouer. Mais c'est assez étrange, c'était pas forcément utile.
En tout cas, retour de Guillermo del Toro après avoir signé deux blockbusters.
Et puis Jessica Chastain est absolument formidable. Elle est digne, je dirais, de certaines icônes des années 60 comme Barbara Steele ou Martine Beswick. Enfin, elle est vraiment formidable.
Voilà, et c'est dit, nous allons parler justement d'acteurs. C'est le côté showbiz un peu de Cinérama cette fois-ci. Et oui, nous inaugurons cette section. Et nous allons donc parler du choix des acteurs. Comment s'opère le choix des acteurs avec des acteurs et puis une réalisatrice.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi ?
Que serait Shining sans Jack Nicholson ? Taxi Driver sans Robert De Niro ? Les Amants du Pont Neuf sans Denis Lavant et Juliette Binoche ? Eh bien, on ne sait pas. Mais pour certains longs métrages, l'acteur ajoute un petit supplément de réussite, de fantaisie, de vraisemblance, de sex appeal. Tout dépend des désirs que le réalisateur construit sur son personnage. Alors, on trouve des comédiens, parfois, en les cherchant parmi les anonymes. Eh bien, c'est ce qu'on apprend avec Daniel Arbit, qu'on a rencontré au Festival du cinéma méditerranéen qui se déroule en ce moment à Montpellier. Elle parle du choix d'une actrice, Manal Issa, qui incarne une jeune immigrée libanaise dans Peur de rien, prochain film de la réalisatrice qui devrait sortir en février 2016 et qui a donc été projeté en avant-première au Cinébed. On écoute ce qu'elle en dit.
On m'a trouvé parmi 700 filles et j'ai cherché large, j'ai cherché au Liban, dans les universités, en France, dans les pays du Maghreb. D'ailleurs, je me suis dit, elle peut être maghrébine, elle peut être iranienne, elle peut être turque. Je vais même caster une espagnole. C'était le fait d'être étranger qui m'intéressait et d'être jeune. Et l'aspect libanais, je souhaitais vraiment trouver une libanaise, mais je ne la trouvais pas jusqu'à la fin. En fait, c'était une assistante qui travaille sur le film, qui profilait sur Internet des visages, comme l'image du visage que je lui ai donné. C'était, enfin, comment vous expliquer, quand on cherche quelqu'un, comment on peut le chercher? Donc, cherche une sorte d'idéal ou de photo approchante ou d'un style. Et donc, elle a trouvé sur Facebook en voyant des visages d'amis. Donc, elle faisait tout un... Pour tous les gens qui ne sont pas venus, qu'on est allé nous chercher, qu'on est allé nous contacter. Donc, quand on a vu son visage, on l'a contacté parce qu'elle habitait au Liban. Et elle a dit non, j'habite à Angers, et puis je viens la semaine prochaine à Paris, et puis pourquoi pas. Donc ils l'ont castée et ils m'ont montré les images, et c'était assez impressionnant.
Voilà, elle a trouvé son actrice. Alors, il se trouve que c'était une fille qui sortait donc d'une école d'ingénieurs, donc elle n'était absolument pas comédienne. Alors, il y a les comédiens après qu'on choisit parce qu'ils ont fait partie d'un succès du box-office. Là, eh bien, on va écouter Philippe Lachaud, le co-réalisateur de Babysitting 2, que nous avons vu dernièrement, en avant-première ici. Hein, et donc, il nous parle d'un certain Christian Clavier. Pas franchement un inconnu en termes de négociation. Il s'agit juste de savoir combien prend l'acteur pour sa prestation.
Oui, on ne pensait pas que Christian Clavier viendrait parce qu'il sortait du succès historique de Qu'est-ce qu'on a fait au Mondieu. On s'est dit il va recevoir encore plus de propositions, ça va être très compliqué. Et au final, il a dit oui très rapidement. On était comme des fous, on était trop fiers d'avoir Christian Clavier dans le film parce qu'on savait que le film allait prendre une autre dimension, quoi.
Le budget UV, ça nous a un peu plombé, c'est vrai.
Pardon. Oui, non, mais Marine, tu faisais une imitation hors micro de Christian Clavier, ça veut dire qu'ils auraient pu économiser quelques cachets. Ils auraient pu te prendre. Donc, rien d'étonnant donc à voir Clavier dans une comédie, mais peut-être plus étonnant de savoir que Tahar Rahim a tourné dans le prochain film de Kyoshi Kurosawa. Comment le réalisateur japonais est allé vers le comédien français? Eh bien, même Tahar Rahim ne le sait pas, on l'a rencontré dernièrement.
Il avait envie de faire un film en France, et il m'a contacté, on s'est... Enfin, il avait déjà son film, je pense, et on s'est vu. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est du...
Dis-le même, il voulait absolument Tahar Rahim. C'est le seul acteur qu'il voulait en France, c'était Tahar Rahim. Non, mais c'est vrai.
Arrête-toi.
C'est pas forcément... C'est que le mec, en tout cas, il savait ce qu'il... C'était toi, quoi.
C'était vraiment agréable et différent, c'était une expérience vraiment autre. Pour ça, je suis vraiment curieux de savoir, moi aussi, ce que c'est, quoi, à la finale. Tu sais, c'est tellement un genre particulier qui se travaille aussi beaucoup en post-production. Ouais. Je sais pas, on verra. En tout cas, j'étais très heureux de bosser avec lui. Ouais.
Voilà, donc en tout cas, il a bossé avec Kurosawa, mais sans savoir vraiment ce qui a amené le réalisateur à le faire travailler. Mais le mot de la fin, sur ce choix des acteurs, ira à Gérard Lanvin. Il parle de la majorité des films commerciaux en évoquant l'agence Armédia, qui cherche à placer acteurs et réalisateurs sur les projets. C'est un vieux son qu'on avait déjà diffusé en 2013, quand il était venu présenter un film.
On va bien rigoler.
Le talent majeur d'un metteur en scène, c'est son casting. S'il ne sait pas aller vers cette exactitude, c'est pour ça qu'on voit parfois de très mauvais films en France, parce que c'est des castings amicaux, quoi. C'est même pas pensé. Ouais. C'est voulu comme ça pour partager des choses.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague?
La problématique, c'est qu'il y a quand même des entreprises, ce sont les agences d'acteurs. Et plus l'agence est grosse, plus elle a d'acteurs importants. Moi je ne suis pas chez Armédia, mais Auteuil, Depardieu, tout ça, on les a coquinés ensemble plusieurs fois, machin, tout ça. Parce qu'en fait, c'est un boulot qui se fait à l'intérieur de l'agence. Parce que comme c'est 10% sur chaque acteur, si on peut avoir 80% du film, tout va bien. On va prendre des acteurs qui sont dans la même agence plutôt que... Donc pour un peu que le metteur en scène soit dans la même agence aussi, on fait un film 100% Armédia. Ils s'en foutent complètement, de toute manière, totalement, de leur produit. Ce qu'ils espèrent, c'est que ça marche, mais en même temps, ils n'ont rien fait pour. Donc, ils s'en foutent totalement.
J'en ai bien peur.
Voilà, donc il ne faut pas croire que c'est de l'aigreur de la part de Gérard Lanvin. C'est un peu comme ça que ça se passe, en tout cas, pour les films commerciaux. Voilà, on va maintenant écouter une chronique. C'est Pan.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Oui, c'est Pan de Joe Wright. Alors après la purge du dernier Kenneth Branagh, qui était une adaptation de Cendrillon, le cinéma mainstream continue d'exploiter le juteux filon Disney en rebootant les mythes de notre enfance. Cette fois-ci, donc, c'est Peter Pan que l'on a tenté de revisiter, de moderniser et pourquoi pas de modifier un peu pour le rendre accessible à un public plus adulte. L'action a donc été transposée durant la Seconde Guerre mondiale, à Londres toujours, où le petit Peter Pan attend sa maman dans un orphelinat sordide. Capturé par d'étranges pirates qui l'entraînent au pays imaginaire, il est recueilli par une tribu indienne, persuadé qu'il est l'élu, comme c'est original dans un film américain. Le petit Peter va donc alors devoir apprendre à voler, sous-entendu, de ses propres ailes. Attention, métaphore.
Peter, c'est ton dossier. Tu peux le lire ? Une lettre de ta maman.
Mon très cher Peter, j'attends avec impatience le jour où je pourrai revenir et tout expliquer. Tu es un garçon extraordinaire, plus que tu ne peux l'imaginer. Je te promets que tu me reverras.
Dans ce monde, ou un autre.
Bienvenue au pays imaginaire !
Alors le point fort de cette nouvelle version, c'était censé être surtout son casting, fait de la fine fleur du cinéma américain, entre autres Hugh Jackman, Rooney Mara et Gareth Edlund. Au niveau décor et ambiance, les consultants artistiques ont mis toutes les chances de leur côté en empruntant à Avatar, à Pirates des Caraïbes, à Mad Max, et puis bah aussi tant qu'à faire, on a emprunté au folklore hindou, aztèque et mexicain. Pas de grande surprise donc, hein, si ce n'est que les personnages secondaires sont quelque peu modernisés. Le chef des pirates, Barbe Noire, est en effet habillé comme un travesti de chez Michou, avec des plumes, une perruque, il sniffe de la poudre de fée à longueur de temps. Et bonne nouvelle, en revanche, côté féminin, eh bien, tous les personnages de femmes sont des guerrières et des leaders. Enfin, peut-être que la révolution est un peu en marche. Malgré tout, bon, bah, les personnages secondaires sont quand même beaucoup trop édulcorés pour prendre cher, sachant que l'on a également bien respecté les quotas en glissant un gros noir baraqué, mais un peu bête, un petit asiatique très fort en arts martiaux, mais qui ne parle jamais, et puis un indien sympa en apparence, mais fourbe en réalité. Les scénaristes ont également tenté de glisser sans grand succès quelques anachronismes pour pimenter un peu le tout, comme par exemple les scènes où les enfants du pays imaginaire chantent du Nirvana. Alors en fait, ça avait déjà été fait, hein, entre autres dans un film de 2001 qui s'appelait Chevalier, qui était le premier film de Heath Ledger. Voilà, c'était le petit point. Voilà. Au final, donc, et malgré quelques belles trouvailles visuelles, cette version 2015 a du mal à créer son propre univers. La technologie 3D s'avère bien inutile, surtout lorsqu'il s'agit de susciter un souffle épique, d'autant que le jeu des comédiens, pourtant triés sur le volet, laisse à désirer, et les combats en particulier sont terriblement mal chorégraphiés. Alors peut-être que les mauvais effets spéciaux peuvent duper un très jeune public, mais l'ensemble manque vraiment de souffle et d'énergie. Et puis c'est quand même très triste, ces films qui sont faits à 95% en post-prod.
C'est un peu dommage parce que Joe Wright est un bon metteur en scène.
Moi, je ne le connaissais pas du tout, justement.
Il avait fait un film qui s'appelait Orgueil et préjugés, et puis un autre qui s'appelait Anna. Deux films très différents, mais c'est un réalisateur anglais plutôt de qualité. Et c'est un peu dommage parce qu'on voit beaucoup de films comme ça réalisés par des auteurs qui se retrouvent comme ça parachutés sur des grosses productions. Et souvent, c'est pas intéressant. C'est-à-dire que ça sert à rien de prendre un auteur si c'est pour faire un travail de tâcheron. Enfin, c'est un peu bizarre. Et ça se fait de plus en plus, je trouve, à Hollywood. Hein.
Oui, ben forcément. Enfin, mais en même temps, ça, c'est une histoire courante à Hollywood.
Quelqu'un
qui a un petit succès, dont on sait qu'il a des qualités de metteur en scène, et puis finalement, les producteurs s'y mettent. Et puis, ben, on retrouve ce que dit Gérard Lanvin, c'est-à-dire qu'on va mettre des acteurs, on va les choisir. Enfin, c'est pas le réalisateur qui va les choisir. Enfin, voilà. Il y a une mainmise du producteur.
À une époque, on faisait ça, mais on laissait beaucoup plus de liberté aux cinéastes, qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui, donc ça ne sert strictement à rien en fin de compte.
C'est un peu décevant, d'autant que là, c'est visuellement aussi que j'ai l'impression qu'il y a un problème. J'ai vu quelques images de Pan, en termes de couleurs.
Oui, il se passe plein de choses, mais c'est très très vide en fait. C'est ça donc, qui est un petit peu dommage, voilà. Ils ont tenté de mettre plein de choses dedans, voilà, plein de diverses influences. Et en fait, au final, il ne se passe rien, quoi. Il n'y a absolument aucune inspiration. Enfin, donc voilà.
Mais n'est-ce pas une métaphore de ce que nous vivons, de l'époque que nous vivons ?
C'est peut-être ça. Peut-être qu'en fait, il y a un sous-texte.
Et est-ce que c'est pire que Hook ?
Ben, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas revu depuis mes 12 ans. Donc, et je pense que, de ce que tu en disais, c'est pas plus mal, en fait. Il faut peut-être qu'on en garde un bon souvenir et qu'on ne le revoie jamais.
Ainsi, ça termine Cinérama.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
La semaine prochaine, nous retrouverons à nouveau des interviews et puis des chroniques.
Oui, le nouveau Amenabar Régression, que je vous chroniquerai, entre autres.
Et moi, certainement, le film du grec Yuri Lanitos, je crois que c'est ça, The Lobster.
On t'accorde.
Voilà. Et Dementia, que je n'ai pas pu évoquer aujourd'hui.
Cinérama. Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.